Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission qui donne des clés pour mieux comprendre l'économie mondiale. La planète économie encore bien secouée cette semaine, inflation persistante, prix des matières premières, prix alimentaires, un nouveau ministère en Allemagne qui réunit économie et climat, et le président français qui fixe ses priorités pour l'Europe.
Nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin.
Une Europe puissante dans le monde, mais qui protège ses frontières, a dit aussi Emmanuel Macron. D'un point de vue économique, il y a de quoi débattre. Comme on le pressentait, le coup près est tombé pour Evergrande. L'ex-champion chinois de l'immobilier est en défaut de paiement, incapable de rembourser ses échéances de dettes. Que va faire l'État chinois qui avait commencé à reprendre les rênes de l'entreprise? On va en parler quelques minutes avec une économiste basée à Hong Kong. L'enjeu est énorme pour les investisseurs, gros et petit. Cette Chine qui vacille et qui subit à sa manière les désordres du commerce mondial, chaîne d'approvisionnement en panique, secteur du fret en difficulté, le variant Omicron comme une cerise sur le gâteau avant les fêtes de fin d'année, traditionnellement synonyme d'achat en masse et de tables bien garnies. Où est le problème et où est la sortie? Faut-il relocaliser à tout prix? C'est notre dossier de la semaine. Nous serons avec l'économiste Isabelle Méjean, dont c'est la spécialité. On sera en Chine et en Afrique pour voir les effets de cette situation inédite. Ce n'est pas fini. L'Afrique, face à ses défis du moment, les droits de tirage spéciaux, le coût de la vie, la transition énergétique. Long entretien avec le président de la Banque africaine de développement, le docteur Akinwumi Adesina. Il formule quelques propositions et dit aussi son optimisme.
Je pense que le pays n'a pas le choix de donner une assistance sociale qu'il faut, surtout pour les populations qui sont plus touchées. Mais les difficultés ne vont pas être là toujours. Il faut être résilient, passer dans cette phase et je pense qu'on aura une reprise.
Et puis on fera un détour par la Guadeloupe, territoire des Antilles françaises, en proie à une crise économique et sociale.
Tout ce qui se passe depuis deux semaines, il faut le prendre comme un cri d'une grande souffrance que vit la population et singulièrement la jeunesse qui vit au jour le jour.
Voilà pour le programme. Rejoignez-nous sur RFI Echo, sur Facebook et Twitter. Vous êtes de plus en plus nombreux à y suivre l'actualité économique au quotidien. Je lancerai tout à l'heure un appel à vos propositions pour nos émissions de fin d'année. Programme riche, en effet. Tout de suite, la Chine est cette étape importante dans le dossier Evergrande, poids lourd de l'immobilier endetté jusqu'au cou, incapable de rembourser certains de ses créanciers. C'est maintenant avéré. Et maintenant, que faire? Bonjour Alicia Garcia Herrero.
Bonjour.
Vous êtes la chef économiste de la banque Natixis pour la zone Asie-Pacifique. Vous êtes en ligne de Hong Kong. Quel est le climat dans les milieux financiers en Asie depuis quelques jours, depuis que l'on sait qu'Evergrande est en défaut de paiement?
Bon, Evergrande en défaut de paiement pour les échéances en dollars. En réalité, ils ont fait des paiements il n'y a que deux semaines. Et c'est quand même, je dirais même bizarre que finalement, ils ont décidé de ne pas payer parce qu'ils ont payé jusqu'à maintenant. Et pourquoi? Parce que on pense qu'il y aura une restructuration de la dette externe d'Evergrande, pas vraiment de la dette interne. Et ça sera une petite partie de la dette, ça sera de 20 000 milliards de dollars, qui n'est pas petit, mais par rapport aux 300 000 milliards de dettes, qui est le total, c'est que ça, on pense, qui va être restructuré.
Donc c'est une faillite très partielle.
C'est ça, exactement. Et c'est pour cela que les agences comme S&P ont classifié cette restructuration, cette faute de paiement, comme restrictive, c'est-à-dire que pour une partie de la dette.
Il y a une confiance dans les marchés financiers. On ne s'est pas affolé, là, finalement, cette semaine.
Non, parce que, disons que le gouvernement chinois a réussi à donner le ton aux investisseurs de décider s'ils restent où ils partent. C'est-à-dire, c'est déjà depuis l'été qu'on sait que Evergrande a des problèmes de paiement. Et c'est que le plus risqué des investisseurs les plus risqués qui sont restés sur les actifs d'Evergrande, surtout offshore, surtout en dollars.
Est-ce qu'il faut craindre pour d'autres entreprises dans le secteur de l'immobilier, de la construction en Chine? On a vu que des entreprises comme Kaisa étaient aussi en grande difficulté.
Oui, oui, on en a eu plusieurs de petites tailles par rapport à Evergrande, bien sûr. On a eu aussi Fantasia qui n'ont pas payé, surtout toujours en dollars, c'est-à-dire le marché offshore à Hong Kong, pas vraiment onshore. Mais moi, je crois qu'il y en aura d'autres et qu'il y aura une consolidation du secteur pour que vraiment, c'est ça moi, je dirais le but du gouvernement en Chine, c'est vraiment d'avoir un secteur plus petit, parce que c'était vraiment trop pour l'économie chinoise. C'est un tiers de la croissance de la Chine. Vraiment trop.
Comme ils ont fait d'ailleurs dans le domaine du numérique.
Exactement ça. Exactement ça. C'est une consolidation du secteur.
Est-ce que cette affaire peut provoquer une prise de conscience? Est-ce que dans le domaine de l'accès au crédit, par exemple, dans le domaine du risque financier?
Disons que pour des secteurs qui ne sont pas liés à l'immobilier, ce n'est pas vraiment un gros problème parce que la Chine aura sans doute un plan de relance. Ça commence déjà dans le domaine monétaire. On a vu une accélération de la liquidité en Chine. Moi, je dirais que c'est de bonnes nouvelles pour les restes des secteurs, sauf l'immobilier, parce que la Chine devra trouver une croissance ailleurs pour éviter l'impact terrible d'une réduction du secteur immobilier dans l'économie chinoise. C'est ça.
Donc, ça n'est pas la fin de la croissance chinoise, c'est le début d'une autre croissance, c'est ça que vous dites?
Exactement.
Vous qui êtes espagnole, Alicia Garcia Herrero, vous qui avez connu une crise immobilière dans votre pays en 2008, est-ce qu'il y a des éléments de comparaison possibles avec ce qui s'est passé en Espagne, aux États-Unis et là aujourd'hui en Chine?
Oui, alors, si on regarde la contribution du secteur immobilier à la croissance, l'Espagne et la Chine ont le même chiffre, c'est-à-dire un tiers de la croissance dépend du secteur immobilier. Mais la vraie différence, c'est que l'Espagne, à ce moment-là, importe des capitaux ailleurs pour financer la boule immobilière, tandis que la Chine ne dépend pas du reste du monde. C'est pour ça que la Chine peut restructurer le secteur. Ce n'est pas une question des crises financières dont on parle, surtout pas avec le reste du monde, mais on parle vraiment d'un impact sur la croissance qui sera lente, mais qui durera très longtemps. La Chine va souffrir très longtemps, mais très lentement.
Pas de risque de contagion pour l'économie mondiale, c'est ça que vous nous dites aussi?
Pas vraiment, exactement. Ce n'est pas aliment, pas du tout. C'est un risque pour la Chine, mais pas un risque immédiat, plutôt un risque de croissance, de lente croissance pour très longtemps.
Merci pour votre éclairage. Alicia Garcia Herrero, en ligne de Hong Kong, chef économiste de la banque Natixis pour la zone Asie-Pacifique. C'est donc une des conséquences confirmées de la pandémie de Covid-19, dont on ne voit pas le bout, bientôt 2 ans maintenant, d'une planète au gré des fermetures et des réouvertures de frontières, incertitudes forcément pénalisantes pour le commerce international en souffrance, c'est le moins qu'on puisse dire, témoignage d'un vendeur de jouets à Paris à quelques semaines de Noël.
D'une façon générale, la période est toujours un peu problématique, donc en termes d'approvisionnement. Là, en plus, si vous voulez, les problèmes de hausse des prix, de problèmes de matières premières et d'engorgement de containers en Chine, ce qui fait que quand je passe une commande, j'ai entre 30 et 50% de références qui ne me sont pas livrées.
Les chaînes d'approvisionnement ne sont pas rompues, mais elles sont grippées pour de nombreux produits fabriqués à des milliers de kilomètres. Il est temps pour nous d'y revenir en profondeur et c'est avec vous, Isabelle Méjean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne de Sciences Po Paris, où vous enseignez l'économie. Vous travaillez précisément sur ce circuit commercial mondial, sa fragilité qui nous saute aux yeux aujourd'hui. Isabelle Méjean, Noël ne sera peut-être pas la fête de la consommation débridée que l'on connaît d'habitude dans certains pays. Est-ce que cette crise du commerce mondial est partie pour durer ?
Pour durer un petit peu, oui, certainement. Hein. En tout cas, l'enchaînement des pénuries et en tout cas les allongements des délais de livraison sont importants et semblent pas être voués à se résoudre dans le très court terme. Donc, au moins jusque milieu 2022, ce genre de délai, c'est des choses qui sont anticipées déjà par l'industrie.
Quels sont les pays ou les zones géographiques les plus touchées et selon quels critères ?
En fait, ce qui est un peu caractéristique de ces problèmes de pénurie, c'est que il y a des problèmes petits un peu partout qui ont des conséquences très globales. Donc en fait, si on donne par exemple l'exemple des semi-conducteurs, c'est un composant particulier des chaînes de valeur qui aujourd'hui conduit à des problèmes d'approvisionnement importants dans l'automobile, dans l'électronique, etc. et qui est lié à des difficultés à répondre à la demande pour très peu d'entreprises dans le monde, notamment le leader mondial à Taïwan.
Est-ce que pour certains produits, est-ce qu'il n'y a pas trop de sources de production pour le même produit ? Par exemple, si on prend l'exemple d'une voiture, il faut des semi-conducteurs venus de Taïwan, il faut d'autres pièces détachées venues d'un autre pays, il faut un pays de destination avec un assemblage. Est-ce que c'est ça aussi le problème ?
Donc en fait, c'est exactement ça. Le problème des pénuries qu'on voit aujourd'hui, il est caractéristique d'un mode de production qui s'est beaucoup développé dans les 20 dernières années et qui se caractérise par la fragmentation dont vous venez de parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très concrètement, pour produire un bien final, que ce soit une automobile, un avion, des voitures, etc., on va avoir des structures de production extrêmement complexes qui vont impliquer des centaines d'entreprises localisées dans plein de pays différents et qui chacune vont produire une petite étape de la production. Donc le semi-conducteur, la pièce automobile, le moteur, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur internationales. C'est des structures productives qui se sont développées beaucoup à partir des années 90, qui sont extrêmement efficaces, qui ont vraiment permis de gagner beaucoup en optimisation de la production, mais qui sont aussi des modes de production qui sont de manière un peu inhérente rendre structurellement plus fragile, tout simplement à cause de cette complexité. Parce que pour que le système marche, pour qu'on arrive à produire une voiture aujourd'hui, il faut qu'au même moment, il y ait 10 000 entreprises dans le monde qui produisent à un rythme adapté à la production du bien final. Donc ça, c'est vraiment une structure de production qui, un, s'est beaucoup développée, et deux, se caractérise par une forme de fragilité qui a été mise en exergue, je pense, dans la situation de la crise du Covid.
Avec une production parfois très concentrée dans certains pays. On a parlé des semi-conducteurs à Taïwan. Il y a aussi l'exemple des gants chirurgicaux en Malaisie.
Exactement. Donc ça, c'est dans la partie optimisation de ces chaînes de production, une manière de réduire les coûts. Mais aussi de produire de manière très efficace, c'est de concentrer chaque étape de production dans très peu de lieux de production. Et ça, c'est un peu inhérent au mode de production parce que c'est des modes de production où il y a beaucoup de ce qu'on appelle des coûts fixes relationnels, c'est-à-dire que pour mettre en place l'organisation productive, il faut investir non seulement dans des capacités de production, mais aussi dans des capacités logistiques, puisque comme on transporte, comme on produit un bien à partir de composants qui sont produits dans plein de pays différents, c'est des modes de production qui sont très dépendants des structures logistiques. Et donc cette organisation, elle a conduit à un extrêmement fort niveau de concentration. C'est-à-dire que pour schématiser, une voiture aujourd'hui va être produite avec 10 000 composants, chacun étant produit dans une seule entreprise au monde. Et donc dès lors qu'on a ces modes de production qui sont très très concentrés, on va avoir des fortes dépendances des entreprises les unes par rapport aux autres. Et le moindre grain de sable, disons, dans la structure productive, va avoir des conséquences sur l'ensemble de la chaîne de production.
Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, Isabelle Méjean, c'est que la Chine n'est pas la coupable de ces problèmes d'approvisionnement mondiaux, comme certains le disent parfois.
Non, c'est pas que un problème chinois. Alors évidemment, il y a beaucoup des entreprises ou des composants dont on parle qui sont produits en Chine, parce qu'aujourd'hui, la Chine est une puissance économique très importante. Mais ce problème de concentration et de structure et de fragilité des chaînes de valeur, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'autres endroits. Donc pour donner un exemple concret, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces questions-là, mais par exemple, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits à la suite du tsunami au Japon en 2011 et qui ont mis en évidence le même genre de problème, c'est-à-dire une situation où on a eu une catastrophe naturelle qui a affecté finalement une région assez limitée dans le monde, mais qui a eu des conséquences au-delà de cette région du Japon, dans le reste du Japon et aussi en France ou aux États-Unis, parce que certaines des entreprises qui étaient situées dans la partie du Japon qui a été directement affectée par le tsunami vendaient des pièces à des entreprises en France ou aux États-Unis qui se sont retrouvées en rupture de chaîne d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, on voit ça de manière exacerbée parce qu'il y a plein de problèmes simultanés de production dans plein d'endroits différents en même temps. Et cette dynamique, ce problème, il est lié à la structure des échanges dans les chaînes de valeur internationales.
On a commencé à parler de la Chine, on y va. La Chine, surnommée l'usine du monde. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Bruno, bonjour à vos invités.
Comment se porte la production en Chine avec cette reprise économique mondiale ?
Alors, après le rebond en octobre, l'activité s'est légèrement contractée en novembre. L'indice des directeurs d'achat est repassé en dessous de 50 et c'est lié à plusieurs facteurs. Le prix des matières premières a baissé, mais c'est quand même encore élevé. On avait des problèmes d'électricité. Hein, vous avez entendu parler de ces pénuries, de ces coupures géantes d'électricité dans l'atelier du monde, justement, avec des chaînes de montage qui tournaient 3 jours sur 5. Donc ça, c'est revenu. Hein, l'électricité, les centrales à charbon ont été relancées, l'électricité est revenue. Mais il y a une baisse de la consommation intérieure. Et puis, il y a des problèmes de main-d'œuvre. Des usines ont du mal à trouver, à embaucher. Et le coût du travail a augmenté, sans parler de la résurgence épidémique. Alors, c'est très contrôlé. C'est pas ce que vous connaissez en Europe. Hein, la crise sanitaire ici est très sous contrôle, mais ça limite les déplacements et ça fige aussi les structures logistiques dont parlait votre invité dans les ports chinois. Donc c'est contrasté, on voit notamment que les petites usines de l'atelier du monde sur les régions côtières tournent à nouveau comme cet été, mais on est toujours dans une période de turbulence. Bruno, on est en tout cas plus dans ce rebond impressionnant qu'on avait mesuré à la fin de la crise sanitaire l'année dernière. La deuxième économie du monde a perdu de son élan, il y a aussi le secteur immobilier qui est sous tension, vous avez entendu parler d'Evergrande, de Caixa, Sunshine, plusieurs promoteurs chinois sont dans le rouge et le FMI parle du coup d'une reprise économique chinoise déséquilibrée qui ralentit.
Merci Stéphane. Isabelle Méjean, Stéphane Lagarde a évoqué la pénurie de main-d'œuvre en Chine aussi. Est-ce que ça va handicaper la reprise du commerce ?
Dans cette situation complexe du commerce liée à ce fonctionnement dans des chaînes de valeur, finalement, tout ce qui pénalise la productivité à un point des chaînes de valeur va avoir des conséquences. Donc effectivement, des difficultés de recrutement dans un secteur en Chine peuvent avoir des conséquences au-delà de ce secteur et donc une diffusion, une amplification du problème via les chaînes d'approvisionnement.
Est-ce que ce qui se passe en ce moment, est-ce que ça n'est pas le revers de la médaille d'une mondialisation qui nous permettait jusque-là d'avoir tout très rapidement et à moindre coût ? On commande via le commerce électronique et une semaine après, on a un produit venu de Chine 5 fois moins cher.
Si, tout à fait. C'est vraiment l'arbitrage, hein, si on parle avec des mots d'économiste auxquels on fait face. C'est-à-dire que ces chaînes de production, ces chaînes de valeur internationales, c'est une manière de produire qui, avant tout, est extrêmement efficace, qui a permis de beaucoup réduire les coûts, mais aussi d'avoir des modes de production qui sont assez flexibles. De manière générale, dans ces chaînes de valeur internationales, on produit énormément ce qu'on appelle un « just-in-time », c'est-à-dire matières à flux tendu. Et ces productions à flux tendu, elles ont permis de réduire les coûts parce que ça veut dire que les stocks, le coût des stocks est réduit au minimum. Mais ça aussi, ça permet aussi très facilement de répondre à des variations de la demande. Donc ça a permis finalement d'avoir vraiment des structures qui suivent les évolutions de la demande de très près. Donc ça a été très bénéfique pour les consommateurs notamment, mais la contrepartie de ça, c'est une fragilité inhérente, un manque de résilience au choc qui est aujourd'hui particulièrement manifeste, encore une fois, parce qu'on se retrouve dans une situation la pire imaginable, c'est-à-dire une situation où il y a des ralentissements de la productivité un petit peu partout, mais pas au même moment. Et puis, en plus, une situation catastrophique du point de vue de la logistique internationale, du fret maritime. Et dans la mesure où, évidemment, ces modes de production dépendent beaucoup du fret, de la logistique, les difficultés spécifiques au secteur du transport international arrivent vraiment à amplifier énormément ces problèmes de production.
On va voir ce problème de fret maritime. Au Kenya, c'est un pays d'Afrique de l'Est qui en dépend énormément. Congestion des ports, pénurie de conteneurs, hausse des prix du fret, allongement des délais pour les entreprises. Un exemple avec Lazarus Kizao, c'est le gestionnaire des opérations chez AGS Déménagement, une société installée depuis 25 ans au Kenya.
L'industrie du transport mondial est vraiment chaotique en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des délais énormes dans les arrivées des cargos, il y a des pénuries de bateaux. Et puis parfois, les prix peuvent doubler, voire tripler en quelques jours. On est vraiment très touché par ces problèmes. Ça a rendu notre travail plus compliqué. Tout d'abord auprès de nos clients, car c'est désormais plus difficile de gérer les délais d'acheminement. Avant, on pouvait annoncer que le transport allait prendre 4 à 6 semaines du port de Mombasa pour arriver en Europe. Maintenant, ce n'est plus du tout acquis. Donc on se retrouve avec des clients déçus parce que l'on ne parvient pas à respecter nos délais de livraison. Ensuite, on a été obligé d'indiquer sur nos devis que les prix étaient susceptibles de changer. Parce qu'on peut avoir un devis de l'entreprise de fret aujourd'hui, puis l'on décide de réserver demain et le tarif a changé, parfois doublé même. Au final, nos services sont devenus plus coûteux parce qu'ils sont basés sur les prix que nous obtenons pour le transport en mer. Et encore, on a essayé d'atténuer cette hausse de prix en proposant à nos clients les prix nets que nous payons pour chaque conteneur. Mais forcément, ça réduit notre marge de profit et ça augmente nos coûts.
Des propos recueillis par notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroir. C'est ça, hein, Isabelle Méjean, le consommateur va devoir s'habituer à payer un peu plus cher. Et puis surtout, peut-être, à ne pas savoir combien il va pouvoir payer dans quelques jours.
Oui, je pense que là, donc la question du fret international est un tout petit peu différente. Enfin, elle vient renforcer le problème, mais on s'attend quand même à ce que ces problèmes de logistique internationale se résolvent, en tout cas en 2022. Là, il y a eu un problème un peu spécifique qui est lié à l'organisation du secteur. C'est un secteur où, de nouveau, on a beaucoup réduit les coûts sur les 20 dernières années. Le prix d'un conteneur acheminé sur des distances importantes a beaucoup diminué dans les 20 dernières années. Et la baisse des prix du fret international a été possible de nouveau parce que les flux ont été optimisés au maximum. Donc concrètement, ça veut dire qu'en temps normal, un conteneur ne voyage jamais à vide. Et donc toute la structure, l'organisation du secteur est faite de façon à ce que à chaque moment, tous les conteneurs soient remplis sur tous les trajets. Et donc ça, c'est quelque chose qui est utile pour réduire les prix. Mais de nouveau, quand on a eu une désorganisation du trafic, parce que certaines parties du monde sont reparties plus rapidement que d'autres après la première vague de Covid, la géographie de ces flux avait changé. Et donc, ça a complètement désorganisé le système, de sorte qu'il y a eu des conteneurs qui ont dû voyager à vide, des ports qui se sont retrouvés avec une pénurie de conteneurs, et de nouveau des problèmes qui se sont accumulés avec ces effets qu'on appelle bottleneck, donc les ports qui sont engorgés et des délais qui se rallongent et qui augmentent beaucoup les coûts, ce que l'intervenant discutait à l'instant.
Est-ce qu'une partie de la solution n'est pas dans les infrastructures? Joe Biden, par exemple, aux États-Unis, a dit qu'il voulait utiliser son plan infrastructure pour accélérer le trafic dans les ports en créant des terminaux temporaires, par exemple, dans certains ports américains.
Sur le trafic, la logistique internationale, les infrastructures sont évidemment très importantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le trafic passe beaucoup par un très petit nombre de très gros ports qui ont eu des infrastructures qui ont été améliorées de façon à améliorer la logistique des flux. Hein. On pense évidemment, par exemple, à Rotterdam en Europe. Donc, sur ce secteur, c'est évident que les infrastructures sont très importantes et qu'à long terme, avoir des infrastructures meilleures va permettre de diminuer, d'améliorer la logistique des flux. Après, le problème d'engorgement actuel va pas forcément disparaître avec plus d'infrastructures, puisque à chaque fois, ces infrastructures vont permettre elles-mêmes d'améliorer la logistique de flux, etc. Donc, le problème actuel, il est vraiment, je pense, lié à cette composante inhérente du secteur du transport international, qui est cette logique d'optimisation des flux, en ayant toujours des containers qui sont transportés le plus vite possible, déchargés le plus vite possible et immédiatement rechargés, et qui donnent ces prix en moyenne très faibles et ces problèmes d'engorgement quand la géographie du commerce change un petit peu.
On est déjà passé par l'Afrique, on va y retourner. Bonjour professeur Malik Sané.
Bonjour Bruno.
Vous êtes le directeur du Centre de recherche et de formation pour le développement économique et social à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où vous êtes enseignant, chercheur, maître de conférences. Vous êtes aussi directeur du laboratoire de politique commerciale du Centre de recherche économique appliquée. Quelles sont jusqu'à présent les conséquences sur le continent africain de cette crise commerciale mondiale ?
Ah oui, les conséquences sont très importantes. Parce que comme vous le savez, l'Afrique est intégrée, n'est-ce pas, dans le monde. Et donc le commerce, aussi bien du point de vue des exportations que du point de vue des importations, constitue un élément extrêmement important dans les stratégies de développement du continent africain. Et donc les conséquences, c'est donc une réduction notamment des exportations du fait du ralentissement de la croissance économique dans les pays notamment développés, mais c'est également, bien sûr, des difficultés en termes d'importation, n'est-ce pas, de produits alimentaires notamment, avec aujourd'hui l'augmentation du taux de fret au plan mondial, de telle sorte que dans nos pays, n'est-ce pas, c'est déclenché un processus inflationniste qui impacte négativement les populations les plus humbles.
Malik Sané, quels sont les produits alimentaires importés en Afrique qui posent problème aujourd'hui ?
Mais les produits alimentaires, ouais, on peut considérer par exemple le riz, c'est également tout ce qui est farine, tout ce qui est sucre et bien entendu tous les autres produits entrant dans le panier de la ménagère. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui l'économie internationale fait partie intégrante donc de nos vies et l'augmentation, n'est-ce pas, de ces prix des produits notamment alimentaires constitue un sérieux problème par rapport, en tout cas, à la vie des populations.
Vous avez parlé des problèmes d'approvisionnement via le fret maritime dans les ports. Quelles sont les zones en Afrique qui sont les plus concernées ? Quels sont les ports qui ont le plus de problèmes avec ce désordre économique mondial ?
C'est tous les pays, en tout cas, disposant d'une frange maritime, notamment des ports. Pour le port de Dakar, c'est valable pour l'Afrique du Sud, c'est valable pour le Nigeria, parce qu'aujourd'hui, on éprouve beaucoup de problèmes pour importer nos marchandises sur le continent africain, mais c'est également la même chose pour ce qui concerne les exportations. Et à ce niveau-là, ce sont les armateurs qui s'en sortent le plus, au détriment, bien sûr, des populations les plus humbles, du fait des charges supportées par les importateurs. Donc, cette crise impacte à la fois les pays ayant une frange maritime, n'est-ce pas, mais également les pays de l'Interland. Parce que c'est à partir, n'est-ce pas, des ports qu'on débarque les marchandises et qu'on les transporte dans l'Interland. C'est le cas, par exemple, à partir du Sénégal, n'est-ce pas, un pays comme le Mali. C'est la même chose pour le Burkina Faso, un pays comme le Niger, le Tchad également, bien sûr, qui sont à l'Interland, hein, subissent, n'est-ce pas, le renchérissement des tarifs du transport maritime international. C'est un problème relativement sérieux.
Alors, pour être un peu plus positif pour l'Afrique, on dit parfois que cette pandémie a révélé une chose, c'est l'importance des métaux dans le commerce mondial, l'approvisionnement en métaux dans le commerce mondial. On dit même que les métaux sont le pétrole de demain. Est-ce que l'Afrique a une pièce maîtresse ?
Oui, bon, vous savez, l'Afrique dispose d'énormes potentialités, à la fois sur le plan agricole avec les terres, mais également au niveau des minerais. Mais vous savez, on est spécialisé surtout dans l'exportation de produits de base qui ne sont pas transformés et que donc il va falloir, bien sûr, dans un premier temps, s'organiser pour davantage peser sur les marchés des matières premières. Mais c'est aussi aller dans le sens de la transformation sur place de ces matières premières avant de les transporter. Ça permettrait d'avoir des produits manufacturés mieux rémunérés. Ça permettrait également la création d'emplois, la distribution de revenus. Et donc, je pense que c'est un avantage comparatif dont dispose le continent africain en matière de ressources naturelles, notamment en matière de produits miniers. Mais il faut arrêter l'exportation à l'état brut et procéder à la transformation.
Merci, professeur Malik Sané.
Merci bien. Au revoir.
Isabelle Méjean, les pays pauvres et les pays émergents peuvent tirer leur épingle du jeu, à la fois produire et transformer les produits ?
S'il y a des exemples, disons que ce qu'on a vu dans les 20 dernières années, c'est que la structuration du commerce international autour de ces chaînes de valeur internationales fait que finalement, d'une certaine manière, c'est plus facile pour certains pays de s'intégrer dans ces chaînes de valeur internationales, parce que là où, il y a 30-40 ans, il fallait développer des compétences sur l'intégralité d'une industrie, un pays va pouvoir aujourd'hui entrer dans le commerce mondial, disons, par la petite porte sur un segment très particulier de la chaîne de valeur et après, potentiellement, se développer autour. Donc, un exemple, par exemple, de ce type de, disons, de stratégie de croissance tirée par l'exportation qui a été un succès, c'est le Vietnam qui s'est développé, en tout cas dans le secteur du matériel de transport, où il y a eu d'abord une intégration à la chaîne de valeur avec des entreprises japonaises sur des pièces très spécifiques, notamment sur des motos. Et puis, une fois développé des compétences autour de ces chaînes très spécifiques, le pays a pu finalement s'étendre. Donc, d'une certaine manière, c'est une opportunité pour les pays. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, c'est très granulaire. C'est-à-dire qu'il y a très peu de pays qui arrivent à s'intégrer à ces chaînes de valeur. Ceux qui arrivent, finalement, en bénéficient beaucoup. C'est une source de croissance qui est plutôt plus importante que sur d'autres épisodes d'ouverture au commerce international. L'intégration à des chaînes de valeur est très bénéfique en termes de croissance parce qu'il y a relativement beaucoup de transferts de technologies à l'intérieur de ces chaînes de valeur. Donc ça bénéficie beaucoup aux pays qui sont intégrés à ces chaînes de valeur. Mais par contre, finalement, c'est des structures dans lesquelles très peu de pays arrivent vraiment à s'intégrer. Et donc, notamment, c'est ce qui était dit à l'instant, hein, toute la question, c'est vraiment la question des pays africains qui, jusqu'ici, sont restés très en dehors, restent confinés sur des étapes de production où c'est principalement des matières premières, des ressources brutes. Et donc, ce que disait votre intervenant, c'est vraiment le challenge pour ces pays-là, c'est de réussir à se développer au-delà de ces étapes de production qui sont très peu génératrices de valeur ajoutée.
Deux dernières questions, Isabelle Méjean. La solution aussi, c'est relocaliser les productions ?
Donc sur ces questions de fragilité des chaînes de valeur, ce qui est très clair et ce qu'on a discuté dans cette émission, c'est que le problème tient à la structure extrêmement concentrée de ces modes de production. Donc la solution, c'est d'avoir des modes de production qui sont moins concentrés ou d'avoir des matelas d'ajustement. Donc par exemple, beaucoup plus de stock à différents points de la chaîne pour faire face à ces problèmes d'approvisionnement potentiellement assez fréquents dans des organisations productives très complexes comme ça. Donc comment on fait ça au niveau microéconomique, hein, c'est au niveau des entreprises. Il y a des questions à se poser sur la chaîne d'approvisionnement, la supply chain. Privilégier systématiquement plusieurs fournisseurs fournisseurs, déjà deux, hein, c'est très utile et c'est pas du tout ce qui a été fait dans les 20 dernières années. Est-ce que quand c'est pas possible, on peut envisager des technologies un peu différentes qui vont permettre plus facilement de se diversifier, ou bien éventuellement est-ce qu'il faut développer beaucoup plus de stocks pour essayer de faire face à ces problèmes. Donc ça, sans doute que le bilan de ces deux années de dérèglement des chaînes de valeur va donner lieu à des remises en cause des stratégies existantes. Donc c'est tout à fait possible que dans les années à venir, on voit se développer des modes de gestion de la chaîne de valeur qui donnent un petit peu plus de poids, disons, à ces problèmes de risque et à la manière de faire face à ces risques d'approvisionnement.
Toute dernière question, Isabelle Méjean, est-ce que l'Organisation mondiale du commerce joue son rôle ?
Sur ces questions-là, donc l'Organisation mondiale du commerce, son rôle est de favoriser un commerce et une libéralisation du commerce qui bénéficie à tous, hein, dans un cadre multilatéral. Son objectif n'est pas spécifiquement, disons, de privilégier des modes d'approvisionnement qui soient plus résilients. Après, en dehors de cette question de la crise des approvisionnements, c'est certain que le système multilatéral a beaucoup souffert dans les 20 dernières années, notamment, principalement avec l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui a donné lieu à beaucoup de tensions internationales autour des questions de commerce. Et là, le point central, hein, et c'est évidemment l'OMC et la manière de réformer l'OMC pour que son mode de fonctionnement soit plus adapté à la structure actuelle du commerce international, mais aussi aux enjeux aujourd'hui pour le commerce international qui sont liés aux enjeux climatiques sur lesquels aujourd'hui l'OMC n'a pas du tout de prise, mais qui sont évidemment liés de manière inhérente aux questions de commerce international.
Des enjeux centraux, en effet. Merci à vous, Isabelle Méjean, professeure d'économie à Sciences Po Paris, spécialiste du commerce international.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Cette crise commerciale, c'est un des événements économiques qui vous a marqué cette année. Il y en a d'autres sans doute. L'inflation, la vie chère, les GAFA, les crypto-monnaies, Bitcoin. Qu'attendez-vous de 2022 ? Dites-le nous, exprimez-vous sur Facebook et sur Twitter, sur notre compte RFI Echo, et nous en parlerons pendant les émissions de fin d'année. Samedi 25 décembre et 1er janvier, les meilleurs moments d'Echo d'ici, Echo d'ailleurs, invités et reportages qui ont marqué votre émission ces derniers mois. Et parmi les événements les plus récents, il y a ces manifestations aux Antilles françaises. En Martinique et en Guadeloupe, sur fond de colère contre l'obligation vaccinale, mais aussi de crise sociale, un ressentiment économique. Abla Jounaïdi, journaliste au service économie de RFI, nous envoie ce témoignage de Guadeloupe, Elie Domota, syndicaliste, qui avait déjà mené la lutte il y a 12 ans.
Il y a des grands sujets comme la question de l'eau, la question de l'assainissement, la question de l'agriculture, la question du transport, la question de l'embauche et de la formation de la jeunesse et de l'encadrement des prix. Ce sont des points qui ont été actés en 2009 et l'État a trahi sa signature. Les collectivités locales ont trahi leur signature. Les élus guadeloupéens ont trahi leur signature. Les Guadeloupéens ouvrent les yeux de plus en plus pour dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette société. Aujourd'hui, la société guadeloupéenne est vieillissante. Les jeunes diplômés s'en vont et ne reviennent pas. Et donc, c'est un véritable cri que les jeunes lancent à la société guadeloupéenne. Et je crois qu'il faut écouter ce message-là. Parce qu'en 2009, si notamment le plan d'urgence pour la formation et l'insertion des jeunes avait été correctement mis en œuvre, avait été mis en œuvre tout court, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui.
Abla Jounaïdi, envoyé spécial de RFI aux Antilles françaises, qui nous envoie ce témoignage d'Elie Domota. Ses reportages à écouter dans les prochains jours sur RFI et RFI.fr. En attendant, l'Afrique bouge en lien avec le reste du monde. Un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne se tiendra en février à Bruxelles. On y parlera très certainement de la dette des pays du continent, des problèmes de coût de la vie, de la transition énergétique. Autant de thèmes déjà abordés dans cet entretien avec le docteur Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. Alexis Bédu l'a rencontré il y a quelques jours à Abidjan.
Bonjour docteur Akinwumi Adesina.
Bonjour Alexis.
Beaucoup de promesses de financement pour l'Afrique ont été faites. On se souvient en mai dernier au Forum de Paris, les allocations de DTS également. Est-ce qu'au niveau de la BAD, vous avez vu arriver de nouveaux financements du FMI, de la Banque mondiale? Et si oui, quel projet avez-vous pu financer? Qu'en avez-vous fait?
Ah, je pense que bon, il y a les discussions qui continuent hein, sur les droits de tirage spéciaux. Et vous savez que l'Afrique, le Fonds monétaire international avait ouvert la porte avec le financement de 650 milliards de dollars au niveau de droits de tirage spéciaux. Mais quand même, il n'y avait que 33 milliards de dollars qui a été mis à la disposition des pays africains. C'est vraiment très faible. Et si vous prenez par exemple au niveau de financement qu'il faut pour l'Afrique pour pouvoir réagir et combler le déficit qu'il a eu à cause de COVID-19, c'est peut-être 485 milliards de dollars d'ici 2023. Donc c'est beaucoup. Donc 33 milliards de dollars, ça fait bien pour l'Afrique. Et aussi pour nous en tant que la Banque africaine de développement, il faut stabiliser les économies, il faut rebooster les économies. Vous ne pouvez pas rebooster les économies si les secteurs comme l'éducation, la santé, au niveau aussi de petites et moyennes entreprises et le secteur privé, s'il n'y a pas une croissance de ce secteur. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je continue à faire la plaidoyer que le Fonds monétaire international et le pays développé qui ont reçu beaucoup de ressources au niveau de leurs droits de tirage spéciaux, qui n'ont pas besoin de ça, fait une réallocation envers le pays africain à travers la Banque africaine de développement parce qu'on peut soutenir tous les systèmes financiers en Afrique. Ça doit avoir un impact sur les vies des gens, pas simplement sur le compte de banque centrale.
Face à la crise du cacao, les prix sont au plus bas, les producteurs disent qu'il y a urgence. Est-ce que la BAD prendra des engagements concernant la filière cacao?
Vous savez que le cacao, c'est vraiment très important pour les pays africains. Aujourd'hui, je pense que c'est le pays africain qui détient de 75% de marché de cacao, mais c'est cacao au niveau de matières premières. Le problème, c'est quoi? Il y a toujours la volatilité dans ces marchés-là. Ça augmente et ça tombe. Et une fois que ça c'est comme ça, c'est un impact très négatif sur la fiscalité des pays comme la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur dans le monde, avec le Ghana, le Cameroun et les autres. Mais pour nous, il y a trois choses plus importantes. D'abord, c'est que si l'Afrique est le premier producteur de cacao, il faut que ça devienne aussi le premier transformateur de matières premières. On ne peut pas faire l'exportation de matières premières. Il faut qu'il y ait aussi quand même un investissement pour rebooster la productivité de toutes les plantations de cacao parce qu'il y a beaucoup de plantations qui sont vieilles, donc la productivité baisse. Donc cette gestion au niveau de la productivité, la gestion au niveau de la contrôle des systèmes de stockage et la transformation, et aussi la partenariat avec le grand compagnie mondiale pour pouvoir s'installer ici, juste à côté des producteurs pour faire la transformation, c'est ce qu'il faut. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement, nous avons fait un financement de 600 millions de dollars pour le cocoa board de Ghana.
Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin?
Ah oui, non, c'est ce que nous avons dit. Nous avons déjà programmé pour la Côte d'Ivoire de faire au moins 1 milliard de dollars sur le forum d'investissement en Afrique. Donc c'est ça qu'il faut. Vous savez que moi, j'aime le chocolat. Hein? Tout le monde aime le chocolat. Mais bon, tu ne dois pas être un chirurgien de voir que le chocolat, ce n'est pas trop compliqué à faire. Hein? Donc, il faut les partenariats pour faire ça, ici aussi en Afrique. Il faut que la vie des producteurs change. Ce n'est pas simplement de produire la matière première pour les autres, de gagner le marché.
Que faire pour lutter contre la cherté de la vie qui sévit dans de nombreux pays africains et notamment ici en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la vie chère? Quel est votre pouvoir?
Et vous savez que nous sommes dans une situation qui n'est pas normale. On vient de sortir dans une crise. On reste dans la situation de la crise sanitaire parce que toutes les frontières ont été fermées. Il ne faut pas oublier ça. On vient d'ouvrir ça et Dès qu'on a ouvert ça, il y a beaucoup de pays développés qui viennent de fermer leurs portes. Ça donne l'incertitude, ça affecte l'investissement, ça crée un impact négatif au niveau de la reprise de l'économie. Il y a aussi au niveau de la production de produits vivriers, parce qu'il y a les paysans qui ne vont pas aller au champ. Ça donne beaucoup de choses parce que la productivité baisse. Et il y a aussi au niveau de la production qui baisse. Donc la disponibilité des produits alimentaires dans le marché a beaucoup baissé, ce qui a créé aussi une hausse des prix de choses. Même au niveau du système de transport entre le pays, à cause des contrôles sanitaires, a joué un rôle très significative. Je pense que le pays n'a pas le choix de donner une assistance sociale qu'il faut, surtout pour les populations qui sont plus touchées. Je pense que si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, il y a le programme qui s'appelle le PSGOV, un programme social de gouvernement qui est un excellent programme qui a été mis en place par le président Ouattara et qu'on soutient très fortement à la Banque africaine de développement qui essayait de donner le financement pour les familles qui ont touché, plus vulnérables, à faire face à ce type de difficultés. Mais vous savez que bon, les difficultés ne vont pas être là toujours. Hein. Il faut être résilient, passer dans cette phase et je pense qu'on aura une reprise.
Il y a quelques semaines, lors de la COP26, vous avez dit « Nous ne financerons plus le charbon. Le charbon, c'est le passé. Le renouvelable, c'est l'avenir. » Au-delà des intentions que vous avez, est-ce que la transition écologique est vraiment lancée ?
S'il y a quelque chose qui est constant dans la vie, c'est que les choses changent. Et les choses changent. Il faut qu'on maîtrise nos climats au niveau global. Il n'y a pas notre planète. On est tous ici. Donc, il faut bien gérer ça. Il faut bien gérer la situation climatique parce qu'il y avait le rapport qui a été donné par les Nations Unies qui a montré qu'il y a un chauffement de climatique en Afrique qui va augmenter. Ce sera très sévère. Au niveau de la sécheresse, au niveau de la chaleur, au niveau de l'inondation, au niveau de tout cela. Donc, on n'a pas de choix. Ce n'est pas l'Afrique qui a créé le problème. Hein? L'émission de gaz à l'effet de serre, c'est simplement la contribution de l'Afrique. C'est vrai que ce n'est pas dépasser 3%. Mais quand même, c'est l'Afrique qui s'ouvre le plus. Donc, il faut faire l'adaptation. On n'a pas le choix. Pour la Banque africaine de développement, on a pris la position de leadership dans ce sens. L'année passée, 63% de tous nos financements a été dédié à l'adaptation pour l'Afrique. Nous avons pris la décision de doubler notre financement pour le financement climatique à 25 milliards de dollars d'ici 2025. L'Afrique a besoin de l'accès à l'énergie, l'abordabilité d'énergie, mais la sécurité d'énergie aussi pour nous permettre de faire l'industrialisation. Parce que s'il n'y a pas la stabilité d'accès à l'énergie de base, on ne peut pas faire l'industrialisation. C'est la raison pour laquelle nous avons fait l'investissement sur ce que nous appelons désert à l'énergie, le désert à l'énergie, qui est bien fortement soutenu par le président Macron et dans les pays sahéliens. Et c'est un investissement pour nous de 20 milliards de dollars pour pouvoir utiliser le solaire, de donner l'énergie de base pour les pays africains, en ce pays dans les zones sahéliennes, on fera tout au niveau de développer la potentialité de l'énergie renouvelable en Afrique. Mais il faut quand même qu'il y ait un mixte. L'Afrique a besoin de gaz pour pouvoir utiliser le gaz en combinaison avec l'énergie renouvelable pour nous donner la stabilité qu'il faut. Donc, c'est ça que moi je dis que Il ne faut pas faire les choses très brusques. Il faut être pragmatique et il faut laisser les pays en voie de développement aussi l'espace de pouvoir aussi quand même développer.
Merci beaucoup, Akin Wumi Adesina.
Merci beaucoup.
Le président de la Banque africaine de développement avec Alexis Bédu, du pain sur la planche pour tout le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment d'un modèle venu d'Asie, encore elle, la Corée du Sud, ses conglomérats et son influence économico-culturelle. Je suis certain que ça va vous passionner. Merci à tous, portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI. Littérature sans frontières.